Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Michel Rousseau. Vous êtes le président de la Fondation Concorde. Bonjour, monsieur Rousseau. Votre think tank publie, comme il le fait, j'allais dire, tous les quinquennats, ses propositions pour les candidats à l'élection présidentielle, issues de ses réflexions, des rencontres que vous organisez régulièrement. Le dernier s'appelle France, le grand redressement. Vous en avez fait un livre. Je vais être honnête avec vous, Michel Rousseau, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas trop de changements par rapport à ce que vous nous aviez expliqué il y a 5 ans ou par rapport à ce que vous nous avez expliqué il y a 10 ans. Simplement, la maison, c'est un davantage délabré. Ai-je résumé ?
Oui, très bien. Je pense que vous êtes sévère parce que, en fait, on a largement amélioré nos propositions puisque... Après le
je n'ai pas dit que vos propositions étaient inintéressantes.
Hein. Non, mais vous signalez qu'il y a eu du délabrement. Oui. Ça se traduit par des chiffres, en réalité. Hein. Nous étions, il y a quelques décennies, parmi les pays les plus riches, et chaque Français produisait plus qu'un Allemand, plus qu'un Américain en 1980. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On a essayé d'analyser... Et en réalité, il y a un chiffre d'ailleurs qui marque cette petite décadence, ce déclassement évident, c'est la perte de notre industrie. Notre industrie était équivalente en termes de production à ce qu'on fait en Italie, en Allemagne, un peu dans les pays développés, et on a perdu plus de la moitié de notre potentiel industriel. C'est-à-dire qu'on est devenu un pays qui dépend des autres, qui achète beaucoup aux autres et qui vend moins. En 2021, le déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire en fait entre ce qu'on achète et ce qu'on vend, se monte à 95 milliards. C'est énorme, 95 milliards. Et alors, je trouve que les politiques n'en parlent pas beaucoup. C'est la honte du pays, en réalité. Hein. Nous rentrons dans un phénomène de soumission par rapport à des pays beaucoup plus industriels, plus sérieux. Il est évident que politiquement, ça nous affaiblit.
Est-ce que les politiques ne se sont pas aussi trompés ? Ils ont cultivé le rêve, l'espoir à travers le tourisme, les services tertiaires ou à travers même la Startup Nation en se disant on va faire les boulons et les cartes graphiques en Chine. Nous, on est tellement intelligents et tellement fantastiques qu'on va être la Startup Nation et on se trompe. On ne voit pas le résultat.
Absolument. On se trompe complètement parce qu'en réalité, depuis 50 ans, on vit sur un acquis, c'est-à-dire ce qu'on a construit dans les années 60-70. Malheureusement, il faut admettre qu'à partir des années, le milieu des années 70, et puis jusqu'à maintenant, nous avons été des rêveurs, c'est-à-dire on a pensé qu'on rentrait dans une civilisation, une société post-industrielle. Les travaux difficiles pour les autres, et puis nous, le tourisme, les médias, la finance, etc. Or, la règle économique est beaucoup plus stricte. Il faut produire, même si c'est difficile. Alors, on a surchargé en particulier nos usines avec des taxes, des impôts, c'est tellement plus facile. Et donc, on est arrivé dans un cercle vicieux d'appauvrissement. C'est une honte, on a été mal gouverné, franchement, il faut le dire.
Ah, ben, pourtant, Michel Rousseau, il y a 5 ans, vous étiez plutôt, allez, je vais essayer de deviner, Fillon-Macron, entre les deux.
Oh non, on était beaucoup plus Fillon, bien sûr, parce que lui, il proposait, disons, la réindustrialisation. Fillon, je ne le connaissais pas. Donc, pas Fillon, Macron, je ne le connaissais pas. C'est un artiste, hein, franchement, et il a profité.
Oui, quand je dis Fillon-Macron, je suis un peu déformé par le second tour, hein, où la Fondation... Concorde avec
oui,
les positions
non, nous,
clairement.
On était ouais, beaucoup plus Fillon.
Ce qui compte, c'est le premier tour. Fait, voilà, c'est ce qui reflète vraiment votre.
Écoutez, moi, je pense que quand même, on a eu un président de la République qui est extrêmement élastique et c'est un artiste. Il surfe sur toutes les idées. Il fait plaisir à tout le monde. Il n'hésite pas à sortir le carnet de chèques. Il est bon. On a l'impression, si vous voulez, que ils s'amusent énormément, en fait. Hein. Mais les Français souffrent. Les Français les plus humbles, les plus modestes, souffrent. Et moi, j'ai été maire pendant 22 ans de petite commune, et je me sens trahi un peu par ce président de la République qui est avant tout un grand financier. C'est la finance qui l'intéresse. Ce sont les amis dans la finance, ce sont les très grandes entreprises, c'est la spéculation. Je peux vous en montrer des exemples. Oui.
Vous dites qu'il essaye de faire plaisir à tout le monde en ce moment, quand on voit les villes bloquées tous les samedis après-midi. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais ça, c'est autre chose.
Oui, évidemment, si vous voulez.
Ça ne fait pas plaisir à tout le monde en ce moment.
Voilà. Les Français ne se laissent pas manipuler, ils ont bien raison.
Alors,
et encore, ce n'est que le début. Moi, je pense qu'on va voir beaucoup de choses nouvelles arriver cette année 2022. Il faut que quelque chose se passe dans ce pays, parce que j'ai l'impression quand même que ça se dégrade, quoi. Et c'est caché par du pognon qui est lâché, mais que nos enfants devront rembourser.
Eh oui. Ce qui me fait le plus de peine, finalement, Michel Rousseau, quand je lis vos propositions, c'est qu'elles sont de bon sens et des propositions que quiconque réfléchit un peu depuis des décennies est capable de les écrire. Je vais le résumer, par exemple, favoriser les conditions de transmission des entreprises industrielles, supprimer des taxes sectorielles, créer des groupes locaux d'entreprises, reculer l'âge de la retraite. Alors, certains disent deux trimestres, trois trimestres, peu importe, mais vous dites un trimestre par an, ok, bon. Réguler l'immigration subie qui pénalise notre taux d'emploi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout ça, on l'écrirait dans un café au coin de la rue, en position assise, bien sûr, puisqu'il est interdit d'être debout en ce moment. On l'écrirait avec notre bon sens. Et tout le monde le ferait de la même façon. Pourquoi ce n'est pas fait depuis 20 ans, 25 ans? Certains sujets que vous abordez étaient même d'actualité il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Hein.
Bien sûr. Alors, c'est à se demander si on a la bonne équipe dirigeante depuis 20 ans ou 25 ans. Si ceux qui nous gouvernent vivent la même chose que nous. C'est une question qu'on peut se poser. Il n'y a pas beaucoup de renouvellement à la tête des élites. Et je pense qu'il y a une formation qui est une formation avant tout administrative. D'ailleurs, l'administration a réussi, hein. Elle a doublé, par exemple, dans les collectivités locales, elle a multiplié ses effectifs par 2,5 en 20 ans, 25 ans. C'est ahurissant. La bureaucratie socialiste, il faut l'appeler par son nom, à force de se cacher. L'intercommunalité, par exemple, c'est un truc, une bureaucratie socialiste mise en place. C'est effrayant. Ça affaiblit les maires, ça ralentit tous les processus, ça grossit les organisations intermédiaires. Enfin, c'est une honte. On l'a expérimenté pendant 20 ans, il faut arrêter, quoi. Donc, y a des tas de choses comme ça qui ne sont pas vécues par nos élites comme nous les vivons, nous, sur le terrain. Alors, c'est à se dire que droite et gauche... Alors, la gauche a quand même enclenché un système bureaucratique assez extraordinaire, hein, en emmerdant les entrepreneurs, ceux qui créent la richesse, en développant l'administration, les charges, etc. C'est assez... après, la droite n'a pas eu, disons, l'esprit de rééquilibrer. Peut-être qu'ils ont eu des difficultés en termes politiques, mais en gros, le constat est là. Il n'a pas été rétabli d'équilibre dans son pays, dans ce pays, un équilibre productif. C'est clair. Pour moi, c'est clair.
Vous avez dit c'est la bureaucratie socialiste, finalement. Oui. Michel Rousseau, oui. Vous reconnaissez qu'on n'est pas sorti du socialisme depuis Mitterrand, quoi. Peu importe les
Absolument.
Présidents.
On n'est pas... Non, l'esprit politicien a été terrible et continue à être terrible dans notre pays. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher des électeurs avant tout. On ne leur explique pas, on n'explique pas aux Français. Alors, ils le ressentent après les Français. Et ils trouvent qu'un jour, un jour ou l'autre, ils se réveillent et ils trouvent, comme les Gilets jaunes, que les répartitions entre les riches et les moins riches deviennent excessives. Mais ils ne savent pas à quoi imputer ça. Il faut l'imputer à la perte de niveau de vie du pays depuis 30-40 ans, qui est due à l'excessive bureaucratie. Et je ne sais pas si vous avez lu le bouquin, nos économistes font la comparaison entre les pays en plein développement, à forte croissance, par exemple, même Taïwan, la Corée, etc., même l'Allemagne.
C'est Christian Saint-Étienne qui...
Oui, mais il n'y a pas de Christian. Il y en a d'autres qui font, disons, une réflexion sur la charge, hein, sur les charges qui sont excessives dans ce pays, quoi. C'est incroyable. Si on avait la même dépense publique qu'en Allemagne, je crois qu'on pourrait reverser 7000 euros de plus par an à chaque salarié français. C'est énorme. Et plus de 20 000 ou 25 000 si on compare avec notre système, avec celui de la Corée du Sud. Bah écoutez, et pourtant la Corée du Sud, c'est un pays démocratique. Voilà, on peut se poser des questions, il est temps de se les poser.
Depuis la nuit des temps, depuis la création de l'univers, le monde est basculé soit par des opposés et des extrêmes, comme la chaleur, comme le feu, ou comme le froid ou la glace, mais aussi par la notion de temps, c'est-à-dire le début et la fin. Il y a le début, la fin de l'âge, les animaux, les végétaux, la terre même va disparaître un jour, et de la même manière, les entreprises, les marques, mais les nations et les civilisations peuvent aussi disparaître. Est-ce que finalement, c'est pas une inéluctable et que le peuple français est en train de disparaître pour laisser place à autre chose. Voilà.
Autre chose.
Ah oui, vous avez compris. Hein.
Non, mais écoutez, franchement.
Au sens économique, je veux dire. Là, les gens n'ont plus envie de se battre pour leur pays, les gens n'ont plus envie.
D'accord. Je suis pas du tout d'accord avec vous parce que le temps, il y a le temps infini, hein. Il y a 13 milliards 500 millions d'années depuis la création du monde.
Il nous reste pareil.
On verra pas ça. C'est pas peine. Ce sont des débats inutiles. Mais je pense que ce qu'on a, on doit essayer de le conserver aussi longtemps qu'il est possible. Et à l'échelle d'une vie humaine, je vois pas, disons, ni moi ni mes enfants. Lâcher ce que nos ancêtres ont construit, ce serait ridicule. La nature des choses, c'est de bien gérer ce qu'on a et ce qu'on nous a laissé. Et d'ailleurs, je vais vous dire, sans succès économique, il n'y a pas de maintien, de préservation de la nature, de préservation. Il va falloir qu'on dégage des profits pour pouvoir, disons, réguler tout ça.
Oui, mais quoi dire ? Vous avez compris que je vous titillais un peu, Michel Rousseau.
Quoi dire aux Français
pour qu'ils prennent conscience de cela et qu'ils ne restent pas les mains dans les poches en se disant que...
Bah évidemment, quand on voit qu'on est envahi par l'Afrique, ça doit leur poser une question. Mais ça, c'est pas le plus difficile.
Je parlais même pas d'immigration, je parlais de réflexion générale, même sur la question de l'âge de la retraite, la répartition des richesses. Vous avez encore des gens qui s'imaginent qu'il suffit d'aller augmenter les impôts pour réduire la pauvreté, sans se soucier que les gens qui sont riches vont prendre l'avion et vont se barrer.
Ben voilà. Alors, si vous voulez, si je crois qu'ils commencent à comprendre, il faudrait que nos élites déjà prêchent dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il fasse comprendre qu'il est nécessaire d'avoir une économie efficace pour que tout le monde vive bien et qu'on puisse s'occuper des grands problèmes de notre société et des grands problèmes du monde, quoi, si je puis dire. Mais je crois qu'il faut commencer par nous. C'est-à-dire qu'on doit se comparer à ce qui se fait de mieux. Et sans arrêt, on fera des progrès en se comparant à ce qui se fait de mieux. Il ne faut pas être, idéologue. C'est dépassé, c'est du 20e siècle l'idéologie. Ce qui reste dans les idéologies nous emmène à la mort. C'est fou. Regardez par exemple pour un sujet qui est fondamental, c'est l'énergie. La France a été exemplaire et on est en train de déconstruire notre système d'énergie. On est en train de faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français les plus modestes soit atteint gravement. Parce qu'il est évident que les éoliennes, par exemple, font grimper à une vitesse incroyable les prix de l'électricité. Ce qui en France était un atout considérable. On était deux fois moins cher qu'ailleurs.
Grâce au nucléaire.
Et donc nous demandons à ce que nous retournions au nucléaire le plus vite possible. Et si vos auditeurs ou vos lecteurs peuvent comprendre ça. Il faut qu'ils agissent sur les zones politiques, c'est fondamental. On n'a jamais vu un pays ayant une industrie forte avec une énergie coûteuse. C'est de la folie de faire augmenter ainsi notre électricité dans le but de, alors qu'on veut réindustrialiser. C'est un contresens. Voilà. Alors ça me met, c'est ce qu'il y a de plus révoltant actuellement. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que, à la présidentielle, il y ait un débat là-dessus.
Moi, ce que je vois, c'est que je trouve le général de Gaulle surtourné. C'est lui qui a mis la France du nucléaire dès les années 75-80. Il semblait inconcevable d'entendre des communiqués, comme on l'entend de la part de RTE, donc de EDF, aujourd'hui au XXIe siècle, dire s'il y a un épisode de grand froid, de calme, il pourrait y avoir des coupures sectorielles sur le pays, etc. Mais on se croirait au Congo, quoi. Je veux dire, quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité trois heures par jour.
Ah, mais alors là, vous soulevez le problème essentiel de ces années présentes. Il faut éviter de rentrer dans ces scandaleux, d'avoir... Alors, RTE, faut virer tout le monde. EDF, faut nommer des nouveaux dirigeants. Là, je vais être pris en tenaille. Là, hein. Je crois que si jamais... Il y a des gens qui m'entendent, mais en fait, en gros, il faut voir les choses en face. La déconstruction depuis 15 à 20 ans, qui a commencé avec l'accord du gouvernement pluriel, c'est un dénommé Cochet qui a engagé le système de déconstruction.
Je crois qu'il vit maintenant avec des poules et des vaches au fin fond de la Bretagne.
Oui, il est collapsologue et il s'est enfermé dans un tunnel.
Il attend la fin du monde ou je sais pas.
Il attend la fin du monde, oui. Alors que nous, on essaie de se battre
pour éviter la fin de la France, déjà.
Que soit remis en question tout ce que les écolo-socialistes, là, nous ont engagés dans une voie mortifère, quoi. C'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux, on devrait parler que de ça à la télévision tous les soirs. C'est pas normal qu'on nous engage dans une voie aussi mortifère. C'est pas normal. Il faut réagir.
Est-ce que la valeur travail, vous plaidez souvent pour la valeur travail, hein, Michel Rousseau, je rappelle que vous êtes le président de la fondation Concorde, la valeur travail, est-ce qu'elle n'a pas été mise à mal depuis la crise sanitaire, le Covid, le télétravail, restez chez vous, vous entendez beaucoup de jeunes maintenant qui ont eu une première expérience professionnelle qui disent on veut démissionner, on veut d'abord vivre sa vie.
Écoutez, la
Woodstock, on se croirait presque à l'esprit Woodstock.
La première attaque contre la valeur travail, ça a été les 35 heures. Je ne sais pas pourquoi... Les idéologues ont pensé qu'en travaillant moins, les gens pouvaient être plus heureux. Ils ont oublié qu'on était sur Terre et qu'il fallait valoriser la valeur de l'homme. Il faut absolument que les gens aient du lien social. Or, le lien social, il vient par l'intégration dans un système, par un travail en collectif, par, disons, une existence qui profite à tout le monde. Et surtout pas de se réfugier chez soi, ne rien faire. Donc les journées d'hiver sont longues. Moi, je connais des tas de gens qui préfèrent travailler. Et je vois autour de moi beaucoup de jeunes qui aiment bien travailler. Et tant mieux, parce qu'en fait, le travail et les heures travaillées, c'est ce qui fait la richesse d'une nation. Nous avons perdu, nous, on est les moins travailleurs. Alors que la France était un pays vraiment où il y avait de la productivité, où il y avait beaucoup de travail. On a voulu faire croire aux Français qu'ils étaient exploités. C'est foutaise, c'est encore une idée, une idéologie. On a été très marqué par l'idéologie marxiste qui a été reprise après par les communistes et les socialistes. Ça a été terrible. Ça, c'est mon opinion et je m'y tiens. Voilà.
On parlait de cette valeur travail qui est mise à mal. C'est une génération, là. Il faut reformer. Et ça demande une génération. Ça ne va pas se faire en quelques semaines.
Oui, alors la formation, ça compte aussi. Et puis, en fait, bon, éviter de distribuer de l'argent sans contrepartie, quoi. C'est pas normal. On a fait des études, nous, très précises. Comme vous le savez, le taux d'emploi en France, c'est-à-dire la proportion de gens en capacité de travailler qui ne travaillent pas, c'est beaucoup plus que dans tous les autres pays européens. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est à 66-67% de gens qui travaillent sur la population en capacité de travailler, alors que chez nos voisins, c'est à 75%, 76%. La proportion. Donc, on a un déficit qui s'ajoute à tous les autres déficits. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, les socialistes nous ont fait beaucoup de mal, il faut le dire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont si bas dans les sondages. Les gens s'aperçoivent que c'est une idéologie qui est en train de mourir, quoi. C'était une folie.
Et voilà, Michel Rousseau, vous résumez parfaitement l'état d'esprit de la Fondation Concorde, ce que vous défendez, notamment à travers ce livre, « France, le grand redressement de la Fondation Concorde ». Je crains, malheureusement, que nos chers candidats, avec le futur gagnant ou la gagnante à l'élection présidentielle, eh bien, ne prennent... J'espère que... Pas je veux dire je crains, allez, on va être optimiste. J'espère qu'elle va prendre le temps de lire... Qu'elle ou qu'il va prendre le temps de lire... Non, parce que on a tellement de femmes maintenant, ça peut être, elle peut s'appeler Marine, elle peut s'appeler Valérie, elle s'appellera pas Anne, visiblement. Voilà, là,
on est certain. Déjà avec le désastre, voilà. Le désastre parisien. Voilà.
C'est donc il ou elle va prendre le temps de le lire et de prendre quelques bonnes idées qui sont dans ce livre.
Alors il faut dire que nous sommes quand même, pour le pouvoir d'achat des plus faibles.
Oui.
Il faut jamais oublier ça, c'est que, en fait, si le pouvoir d'achat des plus faibles augmente, c'est toute la nation qui se réjouit et qui s'enrichit. Donc, il faut mettre en place les moyens de réaliser cet espoir, d'augmenter le pouvoir d'achat des plus faibles. Et pas seulement à Paris, dans toutes les régions. Voilà, en
vous
fait,
n'évoquez
notre conclusion.
Pas, et vous n'évoquez pas le sujet... de la crise, de l'état d'urgence, vous faites comme si tout va être nettoyé et on revivra une vie normale dans 6 mois, donc il faut se retrousser les manches. Et...
Oui, moi je pense que là on est sorti, sortir progressivement de cet état d'urgence, cet état sanitaire déplorable.
Donc vous ne pensez pas comme certains que nos gouvernants vont quand même en profiter pour conserver un peu de contrôle sur les populations, contrôle à la chinoise.
Peut-être, mais nous, ça nous, si vous voulez, nous, on reste sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire en fait faire des analyses et faire des projets, essayer de redonner de l'espoir et donner des objectifs. Voilà, ce qu'on peut faire, nous, c'est ça. On n'a pas la clé, et on n'est pas dirigeant. On déplore certaines attitudes politiciennes, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Simplement, ce qu'on peut faire, c'est proposer des choses concrètes, des projets concrets, un espoir pour le pays. Et pas seulement pour le mois de juin ou le mois de mai, là, mais aussi pour nous, ce qu'on veut, c'est des bases de réflexion, d'avoir des orientations pour tout le siècle.
Merci Michel Rousseau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Concorde, qui est un cercle de réflexion. Plus d'une centaine de publications ont déjà été publiées. Vous avez été nommé contrôleur général économique et financier au ministère de l'économie et des finances. Vous avez publié plusieurs ouvrages et on vient de parler de votre dernier livre, le ouvrage collectif de la Fondation Concorde, France, le grand redressement.